Une vie, une œuvre. Georges Moustaki, né le 3 mai 1934 et meurt le 23 mai 2013 à l'âge de 79 ans. Égyptien de naissance, français d'adoption, c'est en poète que Moustaki, voyageur invétéré, arpente les rues du monde, faisant halte ici où une musique raconte l'âme du pays et là où une femme l'invite à sa table pour écrire une chanson. Barbara disait de lui « Moustaki, c'est ma tendresse ». C'est grâce à des rencontres, souvent imprévues, que Georges Moustaki a développé l'artiste qu'il a été. Révélé en 1969 par sa chanson « Le Métèque », Georges Moustaki est évidemment plus qu'un interprète. Commencé bien avant, son métier d'auteur-compositeur lui permet de rencontrer les plus grands de la chanson française. Il écrit « Milord » pour Piaf, « Votre fille a 20 ans » pour Reggiani et des centaines d'autres chansons pour de nombreux interprètes avant de se lancer seul sur scène. Après plus de 50 ans de carrière dans la musique, lorsque le vagabond s'en est finalement allé, pour de bon, il a laissé derrière lui une œuvre artistique magistrale. Voici, pour les fêtes de fin d'année, un très beau portrait rempli d'un air de liberté de Georges Moustaki.
Je suis peut-être au bout du monde ou en train de somnoler. Si vous voulez que je réponde, laissez message ou rappelez.
Georges Moustaki, un air de liberté, par Jérôme Sandlars et Julie Béressy.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire. Des prophètes, des dieux, le Messie en personne.
Moustaki naît en 1934 à Alexandrie, mais pour comprendre la situation, il faut remonter presque 80 ans en arrière.
Louis-Jean Calvet, biographe et ami de Georges Moustaki.
Alexandrie, c'était un port qui s'endormait, il n'y avait pas grand-chose. Mais la guerre de sécession aux États-Unis a joué un rôle fondamental parce que les Américains se tapaient sur la gueule, ils n'avaient plus le temps de s'occuper de leur coton. Or, l'Amérique fournissait à l'Europe 80% de leur coton. Cette guerre arrive, l'Égypte avait du coton, et du coup, Alexandrie est devenue le port d'exportation. Et des tas d'hommes d'affaires sont venus de toute l'Europe, et donc c'est une ville plurilingue grâce au coton. Et lorsque Joe naît à Alexandrie, c'est bien sûr une ville arabophone. Mais en même temps, il y a deux grandes cultures un peu antagonistes, l'anglaise ou l'anglo-américaine et la française. Et c'est là-dedans que Joe est né, avec autour de lui, outre ces trois langues, français, arabe, anglais, des tas d'immigrants grecs, albanais, italiens, espagnols, etc. C'est vraiment une fourmilière de langues.
Dans ce bassin, je jouais lorsque j'étais enfant. J'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent.
Alors, lui d'abord, il naît dans une famille juive, d'origine grecque, mais on parlait italien à la maison. Dans la rue, il parlait arabe, et jusqu'à la fin de sa vie, il parlait toujours l'arabe avec l'accent égyptien, il y tenait. Et il est allé, ses parents l'ont mis à l'école française. Ce qui d'ailleurs explique son prénom, enfin c'est une dérivation assez drôle, parce que ses parents lui ont donné un prénom italien, Giuseppe. Mais la sage-femme qui l'a accouché est allée déclarer à l'état civil égyptien, évidemment, et on a traduit Giuseppe en Youssef, qui est le mot arabe correspondant. Puis il va à l'école française et on traduit Youssef en Joseph, ce qui est le mot français correspondant. Alors Giuseppe, Youssef, Joseph, et les copains l'appelaient Jo. Et lorsqu'il est venu en France, tout le monde l'appelait Jo, les gens ont cru que ce Jo était le diminutif de Georges, et comme il adorait Brassens, il allait s'y croire. Mais jusqu'à sa naturalisation, ses papiers portaient Youssef Moustaki.
Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.
Marcel, René, donc vous êtes une des sœurs aînées de Georges Moustaki. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on revienne ensemble sur votre enfance à Alexandrie.
Eh bien, écoutez, donc nous étions trois. Lui est né en 34, moi en 32, et Elisabeth en 29. Et Georges était un peu sous notre gouverne, un petit peu. Mais au début, quand il était petit, mais après, il s'est vite libéré de ça. Et papa lui avait acheté un petit bateau pour qu'il puisse aller tout seul se promener. Parce que nous allions souvent dans le port d'Alexandrie. Il y avait des plages superbes. Et ce bateau, il l'avait appelé le Mascalzone, qui est un mot italien qui veut dire turbulent. C'est un peu plus fort que turbulent.
Dans la maison où je suis né, dans le quartier de mon enfance, dans cette ville où j'ai traîné mon éternel adolescence.
C'est le troisième, hein. Le fils chéri avec une mère juive. Évidemment. Donc, il naît dans une librairie. Hein. Son père tient la librairie française.
La Cité des Livres.
La Cité des Livres, voilà. Il naît dans cette librairie. Et ce qui fait aussi qu'il va lire tout ce qu'il pouvait lire. Il y avait sous la boutique une sorte de sous-sol dans lequel il y avait les réserves. Il descendait, il s'installait, il bouquinait tout ce qu'il voulait. Enfin, aussi bien des romans que des BD. C'était le livre de la jungle, c'était les Trois Mousquetaires, mais aussi Tarzan, Zorro, etc. Enfin, il avait une culture livresque et BD-esque, si je puis dire, assez large.
Donc son père s'appelle Nessim,
oui.
C'est ça?
Mmh.
Et sa mère, Sarah, que fait-elle?
Ben, sa mère, elle travaillait dans un magasin de chaussures. Et donc c'est la mère qui faisait bouillir la marmite et a permis à Nessim de se débrouiller pour finalement acquérir la librairie.
Où je poursuis mon existence.
Il est un enfant d'Alexandrie, il est un enfant de la Méditerranée, et comme il le disait, il est aussi un enfant de la langue française.
Marc Legras, journaliste et ami de Georges Moustaki.
Tout lui parlait de la France, et en particulier de Paris. Le cinéma, les chansons, la radio, ils écoutaient la radio française, lui entendait à la radio Charles Trenet, Yves Montand, Georges Guettari, tous les gens qu'on entendait à la fin, juste avant les années 50. Et quand les chanteurs français allaient à Alexandrie, il essayait d'aller voir sur scène tel ou tel chanteur. Et c'est ainsi qu'il est allé voir un jour une chanteuse. Il devait avoir 13 ou 14 ans. C'était au théâtre Mohamed Ali. Et c'était Edith Piaf. Et pour lui, dans son enfance et dans son adolescence, Alexandrie, c'est le monde en réduction. Alexandrie va lui donner envie d'aller ailleurs, très loin, d'aller au Mexique, d'aller au Japon. Il a quelques envies comme ça. Mais en même temps, Alexandrie va tellement l'imprégner qu'il trouvera toujours quelque chose d'Alexandrie très loin, dans n'importe quel pays. À un moment, ça va être une couleur, ça va être un accent. Et ce qui fait qu'il n'est jamais tout à fait étranger là où il se trouve.
Il faut imaginer ce que c'est qu'une ville égyptienne, même encore aujourd'hui. D'abord, c'est les parfums, les odeurs, hein. La pipe à eau dans les cafés, comme dit de ses chansons. C'est le muezzin, c'est le type qui appelle à la prière 5 fois par jour. C'est des bruits comme ça. Et puis, il n'y avait pas de voiture ou pas beaucoup à l'époque. Donc, c'est une ambiance orientale à laquelle il doit beaucoup, hein, finalement. Enfin, le temps de prendre le temps, le temps d'avoir le temps, de philosopher.
Le temps de vivre.
Oui, le temps de vivre, oui.
Le temps de vivre, d'être libre, mon amour.
Avant l'adolescence, nous étions très proches. On jouait beaucoup ensemble, on s'amusait, on faisait des farces. Mais assez vite, je dois dire que dès qu'il est entré dans l'adolescence, il s'est un peu éloigné de ses grandes sœurs. Il avait ses copains, il y allait dans les quartiers d'Alexandrie. Parce qu'à Alexandrie, il y avait une grande partie occidentale, et puis il y avait les quartiers plus fréquentés par les Arabes. Donc lui, il aimait bien aller se mélanger un peu avec tout le monde.
Il a un oncle qui est un peu le mauvais sujet de la famille, qui joue de la guitare, enfin, je sais pas comment, mais qui un jour abandonne sa guitare et qui elle se trouve dans la chambre de Georges. Et il y avait aussi un piano hein, dans la chambre de Georges. Et puis un jour, il y a un type qui faisait du piano-bar dans les boîtes de nuit d'Alexandrie, qui était homosexuel, qui s'est pris un peu de Joe, et qui lui apprend d'abord à placer ses mains sur le clavier, puis qui lui apprend à jouer ce qu'il savait faire. C'est-à-dire que Moustaki, très très tôt, pouvait faire du piano-bar. Il en a fait en arrivant en Europe, par exemple, à Bruxelles. Il a appris plus tard, sérieusement, avec un prof, le piano classique. Donc il y avait un piano et une guitare. La guitare, il a gratté vaguement. Le piano, il savait, comme ça, créer une ambiance musicale. Quoi. I wanna be a piano player in Paris, or in New York, or in Berlin. Et puis il entendait le oud dans les bistrots arabes, en fumant la pipe, justement.
Et cette attraction, si on peut dire, pour la France, qui va le pousser à partir, à quitter son Alexandrie natale pour venir à Paris, à quel moment elle émerge?
Il vient un jour, après son bac, son premier bac, à l'époque il y avait deux bacs, hein, il vient voir sa sœur qui, elle, vivait à Paris et qui s'était mariée avec un poète, Jean-Pierre René, qui faisait des émissions de télé plus tard sur la poésie. Et là, il rencontre ce qu'il croit être l'amour de sa vie, une jeune fille qui s'appelle Yannick. Hein, et il rentre en Égypte, le cœur déchiré, et il dit à son père, « Papa, je veux pas passer mon bac, le deuxième. » Donc, je retournais en France. Donc, il revient en France pour retrouver sa belle, qui deviendra la mère de son unique fille, de Pia Moustaki.
Quand moi, je suis venue m'installer à Paris, il a dit, « Ah ben, ma sœur est là-bas, je vais la rejoindre. » Et il avait très envie de vivre à Paris, C'était de toute façon, nous, pour nous, tous les trois, c'était vraiment notre rêve. D'ailleurs, tous les deux, mes deux parents, ont été très, je trouvais, étonnants après coup. Ils ont laissé leur fille, déjà au départ, partir à Paris toute seule. Et puis après, donc, mon frère qui vient nous rejoindre. Mais je trouvais ça étonnant, oui, ils étaient très larges d'esprit, vraiment.
Et là, son beau-frère, donc René, le mari de sa sœur aînée, avait créé une petite maison d'édition. Il avait une librairie dans le 16e arrondissement, s'appelait les Jars, les jeunes auteurs réunis. Et ce type-là utilisait des gens pour vendre ses bouquins au porte-à-porte. Quoi. Et donc, il avait une poignée de gens. Il y avait Guy Bedos qui travaillait avec Moustaki à cette époque-là. Et c'est comme ça qu'il a commencé à survivre à Paris. Et puis, en même temps, il y avait une grande famille alexandrine qui avait un journal, La Réforme Illustrée, et il a commencé à faire des articles dans l'édition du Dimanche sur la vie parisienne.
Donc il était journaliste.
Il était journaliste, il avait une carte de correspondant. Donc il traitait quoi? Les bouquins qui sortaient, et surtout sur le spectacle, sur la chanson. Donc lorsqu'il s'est fâché avec son beau-frère, il est parti avec Yannick, qu'il a épousé à ce moment-là, il avait comme ça des petits boulots. Ça a duré jusqu'au moment où Nasser a nationalisé le canal de Suez, où les relations se sont gelées entre l'Égypte d'une part, la France, l'Angleterre d'autre part. On n'a pas pu le payer. Et là, il a dû faire les cabarets. Il a commencé à écrire des chansons. Et il a commencé à vivoter de la chanson. C'est-à-dire que dans cette librairie, un jour est venu Brassens. Et il discute un peu avec les gens. Il y avait Moustaki. Et Brassens lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et Moustaki, très fier, dit « J'ai écrit 3 chansons. » Ah bon, dit Brassens, tu peux me faire écouter. Mais il les avait enregistrées sur un truc à bande, là. Il a fait écouter ces 3 titres. Et Brassens, enfin, ce que Jo m'a raconté, Brassens lui a dit « C'est de qualité. » Et cette phrase-là, « C'est de qualité », d'abord, 70 ans après, il me l'a raconté encore, presque 60 ans après. Mais surtout, ça l'a renforcé dans sa volonté d'écrire. Et toujours à la même époque, on est en 52, vous voyez, donc il a 18 ans, il va voir Salvador, mais surtout il sait que la femme de Salvador est née à Alexandrie, qui est une sorte de passeport, vous voyez, entre Alexandrins. Il va le voir, il discute un peu, et il lui fait écouter « Il n'y a plus d'amende », et c'est la première chanson de Jo, chanté par quelqu'un de très connu à l'époque, Henri Salvador. Donc, il démarre là-dedans. Il écrit Le bal des 5 parties du monde, Eden Blues, que des gens lui prennent. Enfin, il y a des chanteuses ou des chanteurs qui... au point que Brassens pense qu'il va faire très vite carrière.
Sonorama, 1958, Édith Piaf et Georges Moustaki.
Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme et tu verras comme il t'aimera. Il y a des filles sur le port.
Attends, Jo. Tu vois, c'est difficile d'expliquer, évidemment, surtout dans cette chanson-là.
Ce n'est pas tout à fait ton style.
Non, c'est pas mon style. Tu vois, si tu chantais Jean l'Espagnol, je pourrais mieux t'expliquer tes défauts, tu comprends? Chante-moi plutôt Jean l'Espagnol.
Oui, mais alors là, nous sommes en concurrence directe.
Oh ben, qu'est-ce que tu veux, tant pis, je me ferai une raison.
Sur le chemin de Notre-Dame, il y avait Jean l'Espagnol.
En 58, Henri Crolla, qui était un célèbre guitariste de jazz et qui accompagnait Piaf, mais il était très connu, Crolla, hein, vient le voir pour une histoire curieuse. Quelqu'un a entendu une musique de Crolla chantée par je ne sais plus qui, et il lui dit « ça ressemble à une musique de Moustaki ». Donc Crolla, qui était à Nomonette, vient voir Moustaki dans le deux pièces de la rue des Deux Ponts, dans l'île Saint-Louis, pour discuter de ça, pour lui dire « bon ». Et puis, Joe est très fier de recevoir Crolla. C'était une vedette des joueurs de guitare, quoi. Il sympathise, il se met à jouer de la guitare, tous les deux. Et subitement, Crolla dit, oulala, je suis en retard, je dois aller chez Piaf. Ben, venez avec moi. Et il amène, Moustaki chez Boulevard Lannes, alors dans les beaux quartiers, hein. L'île Saint-Louis n'était pas encore les beaux quartiers à l'époque, hein. C'était une petite île.
Qui s'en allait tout doucement.
Alors, tu vois, je vais t'arrêter parce que je vais te dire maintenant les choses que je peux t'expliquer. Par exemple, tu vois, quand tu arrives au refrain, c'est une prière. Tu vois, Madame la Vierge Marie, si j'ai volé, si j'ai menti, il faut que tu te donnes plus. Tu comprends? Il faut que vraiment ça soit une supplication. Tu vois, que tu demandes le pardon. Et ça, on ne le sent pas suffisamment. Tu ne te donnes pas assez. Tu ne sors pas assez ta voix. Et ça, je pense qu'il faut que tu travailles beaucoup. C'est-à-dire que quand nous reviendrons d'Amérique et que je ferai ma rentrée à Paris, je crois que tu seras au point, mais avant, il est préférable de ne pas envisager un tour de chant. Enfin, je
et
pense.
Donc, il arrive chez Piaf, où il trouve la cour. C'était toujours, il y avait plein de gens chez Piaf qui riaient de ses bons mots, même s'il n'y avait pas de bons mots, même si ce n'était pas drôle, etc. Et elle le drague assez vite, quoi.
Il est beau garçon.
Oui, bien sûr. Enfin, il est beau garçon, elle aime les hommes, elle l'invite d'abord le soir au spectacle, puis elle lui dit revenez demain, il vient pas, elle lui téléphone, enfin, elle téléphone au bistrot en bas de son deux pièces, et elle lui dit on vous a attendu hier, et puis voilà, enfin, un soir, ça commence comme ça, une histoire qui va durer un an. Elle va lui apporter beaucoup de choses. Elle voulait toujours façonner les hommes de sa vie, Piaf, parce que à part Marcel Cerdan, ils étaient tous dans le showbiz. Et elle voulait les former, enfin, leur donner le sens de la scène qu'elle croyait qu'ils devaient avoir. Bon. Et un jour, il passait en première partie de Piaf, c'était bien avant Milord, ça, hein, chantait Eden Blues, et ça marchait pas, il avait pas de voix, il suçait le micro, hein, Moustaki, quand il chantait. Et en coulisses, elle prend un micro et elle se met à faire la deuxième voix, pour l'aider.
À l'aise de Santa Lucia. Les villes s'appellent Natividad, San Miguel ou San Lorenzo. Les filles s'appellent Soledad, les garçons gardent les troupeaux.
Bon, les gens entendent la voix de Piaf, ça fait un tabac, ils sortent de scène sous les applaudissements, mais ils sortent de scène furieux, et ils s'engueulent violemment avec elle. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il a compris plus tard qu'il avait besoin de la brillance, enfin d'une tessiture féminine pour porter sa voix qui était beaucoup plus atone ou enrouée. Mais il a toujours cherché sa voix. Alors il l'a cherché du côté des gens qu'il aimait, du côté d'Henri Salvador par exemple, hein. Il a un peu imité Dario Moreno par exemple. Il était très copain avec Hugo Frey et il était attiré par cette chanson un peu de cow-boy, etc. Bon, mais il se cherchait dans des limites étroites, donc il avait l'ambitus assez étroit. Et c'est là-dedans qu'il cherchait sa façon de chanter. Alors, elle est devenue reconnaissable avec une façon de traîner sur les syllabes, mais il était incapable de s'éloigner du micro. On l'entendait pas à 4 mètres s'il n'y avait pas de micro, hein. Donc, il a forgé comme ça une voix. Mais surtout, il avait compris de Piaf que sa tessiture avait besoin d'être boostée, on dirait aujourd'hui, par autre chose. Autre chose, c'est les voix de femmes. Piaf lui a apporté ça. Bon, elle lui a aussi apporté le sens du texte qui marche, du texte populaire. Et lui va lui donner de très belles chansons.
En tout cas, il y a une chose que tu n'as pas à apprendre, c'est ton talent d'auteur et de compositeur. Parce que ça, je dois dire que Joe Moustaki apporte quelque chose de très nouveau dans la chanson. Bon, veux-tu te mettre au piano? On va donner un petit bout de Milord, hein?
Oui.
On va prendre le refrain. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars avant ou je pars avant? On se rejoint au point d'orgue, non?
C'est toi qui pars avant.
C'est moi qui pars avant?
Oui.
Eh ben, comme ça, c'est plus sûr. Allez, 1, 2, 3... Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds.
Un jour, elle lui demande, il s'est entouré en sud de la France, elle lui demande de lui faire une chanson sur Londres. Alors il dit oui, d'accord. Et puis il paraît que sur une nappe d'un bistrot, il a commencé à faire un papier. Il a commencé à écrire 3 ou 4 mots, Milord, etc. Elle regarde, elle dit, oh non, oublie Londres, Milord, c'est très bien. Et puis elle déchire le papier. Quelques jours après, elle lui ressort, elle lui donne le papier. Et il raconte avoir écrit ça en une demi-heure. Et c'est un succès. Bon, ça va être pendant des années, dans tous les répertoires, jusqu'à sa mort. Piaf, en 63, je crois, pendant 5 ou 6 ans, elle chantera Milord toujours avec un énorme succès. Et surtout, elle défendait les droits de ses amoureux. Et là, elle a fait un contrat avec 1 million d'avance, 1 million de l'époque, bien sûr. Et tout ça lui faisait les droits d'auteur. Donc, ça en a fait quelqu'un qui, bien avant l'heure, vivait de ses rentes, quoi.
Discorama, 1969. Denise Glaser reçoit Georges Moustaki.
Georges Moustaki, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit beaucoup de chansons pour beaucoup de grands interprètes. Je voudrais que, d'une part, vous m'en citiez quelques-unes et que vous me parliez de ces expériences successives ou simultanées.
Le premier grand interprète que j'ai connu, c'était Henri Salvador. La plus grande, c'était Édith Piaf. Et je crois que je ne suis pas un interprète, que certains chanteurs ont tiré partie de mes chansons beaucoup mieux que moi, donc il n'y a pas de raison que je ne leur cède pas la priorité. C'est vrai que j'aime bien cette place à moitié secrète qui est réservée aux gens qui créent dans l'ombre pour d'autres qui vous mettent en lumière, mais sans vous accaparer vraiment.
Pendant l'épisode Piaf, ils croisent tout le showbiz qui se presse chez Piaf. Des gens très connus, des gens moins connus, des parasites, des gens vraiment du métier. Et il y en avait un qui s'appelait Charles Aznavour, qui nous a quittés aujourd'hui. Et c'était le factotum, l'homme à tout faire de Piaf. C'était pas du tout son amant. Hein. Bon. Et elle lui disait, quand Moustaki était là, tiens, tu vas aller avec le petit il était plutôt grand, mais enfin, avec le gamin, il lui faut un costard, ou il faut lui acheter une montre. Et Aznavour amenait chez le tailleur Moustaki pour faire les essayages, pour qu'il ait son costard et choisir une belle montre, etc. Bon. Donc, il a connu ce milieu de très très près. Tous les soirs, on va dans la loge d'un artiste, il y a plein de gens qui viennent, de la radio, de la télé, etc. À l'époque, c'était la radio et la presse écrite. Et ben, il voyait tout le monde. Donc, il était connu de tous, mais il y avait en même temps ses médisances, le gigolo, le salaud, il a laissé tomber Piaf, alors elle est morte, etc., etc. Enfin, elle est morte 4-5 ans après. Hein. Donc voilà, il avait tout ça dans sa poche, mais il n'avait pas envie. Il traînait, il s'amusait, il écrivait des chansons, et il les donnait aux autres, jusqu'au jour. Enfin, il avait fait 2 disques, mais enfin, il avait fait un disque oriental, en y mettant un peu Dario Moreno, vous voyez, il s'appelait, je ne sais plus, Salem, hein, Eddie Salem, je crois. Il avait rencontré Higelin, Reski, chez Bernadette, enfin tous ces gens-là, qui, ça tournait comme ça, mais il ne croyait pas trop à la chanson, au point que Peter, il avait fait 2 disques, voulait le foutre dehors, quoi.
Je suis allé au bord du lac pour y cueillir un abricot.
Maxime Le Forestier, je voulais qu'on évoque ensemble votre rencontre avec Georges Moustaki. À l'époque, vous aviez, je crois, 17 ans, et vous jouiez avec votre sœur, Catherine, c'est ça?
Oui, on doit être en 66. On avait commencé à chanter fin 65. J'avais quitté le lycée. On comptait aller dans les cabarets. On avait été passer des auditions. Et ça marchait pas terrible. Et puis un type qui s'appelait Moshe Naïm, qui était plus ou moins producteur, nous a emmenés un jour chez Moustaki. Il vivait dans l'île Saint-Louis. Et il a trouvé ma sœur très jolie.
Et voilà comment on se retrouve rue des Deux-Ponts.
Catherine Le Forestier.
La porte s'ouvre, il y a deux yeux bleus qui arrivent. J'étais complètement foudroyée. Et ce sourire qu'il faisait comme ça en plissant les yeux, on aurait vraiment dit un chat. Et on est entré dans... donc c'était le tout petit appartement de la rue des Deux-Ponts. On rentrait, il y avait d'abord la cuisine avec une longue table et des bancs. Et il y a toujours un pot de miel sur cette table et souvent des pommes. Donc les pommes au miel. Et alors, il faisait immanquablement le café turc, qui faisait très bien, qu'il fallait faire monter trois fois et tout ça, mais qui était très bon. Et après, on entrait dans la deuxième pièce où il y avait une alcôve avec des rideaux bleus. Et le reste, c'était son bordel, quoi. Deux, trois guitares, il n'y en avait pas autant qu'après, mais déjà, il y en avait deux ou trois. La machine à écrire, les papiers, et le jeu d'échecs, au côté qui était toujours là, les bouquins un peu partout. Et il y avait une cheminée où il faisait du feu, très romantiquement, et me disant, pour réussir un feu, il faut être amoureux. Et c'est comme ça que Joe nous a donné Joseph, le facteur.
Le jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. Tout est fini pour lui maintenant. L'amour ne peut plus voyager.
Il a perdu son messager.
Par la suite, en parlant avec lui, il disait que pour lui, il était un vieux cheval de retour, il avait 32 ans, hein, mais que sa carrière était derrière lui, et de voir arriver des jeunes qui aimaient ses chansons, qui chantaient juste et qui étaient capables de les jouer, ça lui avait redonné un coup de confiance en soi, peut-être, parce que lui, il écrivait des chansons, évidemment, mais il les chantait une fois par semaine dans un petit cabaret qui s'appelait Chez Bernadette. Et puis voilà. J'ai attrapé beaucoup de positions de main gauche en regardant Georges jouer. Parce qu'il était un peu branché avec les Brésiliens. Donc il faisait des accords de neuvième, des accords un peu tordus, des accords avec des dissonances. Ça, c'était bien, mais j'étais pas le seul. Hein. Higelin était pas loin non plus, qui venait. C'est une espèce de source. Il était moins inaccessible que Brassens, et puis peut-être musicalement plus large, quoi. Et c'était le coup d'après. C'était un peu un trait d'union entre ce qu'était la chanson française à cette époque-là et ce qu'elle est devenue après le passage du folk song de Dylan, de John Baez, de ces gens-là.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude.
Mais je ne sais pas à quel point il travaillait sur ces textes. Je les ai toujours vus finis. Et une fois qu'ils étaient finis, ils ne bougeaient plus. Sauf, oui, Reggiani lui a fait changer des bricoles. Mais je ne sais pas s'il était besogneux. C'est possible, hein, ou si ça s'agissait tout seul. En tout cas, quand ça se chante, ça se chante tout seul. C'est même... Le déroulement des couplets aide la mémoire. Il y a une logique, toujours. Il joue comme chez Brassens. Il y a des chansons qui sont assez proches de la perfection, quand même. Hein. Dans le choix des mots, dans le phrasé, aussi. Il y a beaucoup moins de muets, par exemple, que chez Brassens.
Tous les deux face à face, je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse?
Piaf était assez dirigiste avec ses auteurs. Et c'est vrai qu'elle interdisait l'abstraire. Ça vous oblige à trouver des images, à trouver des espoirs. Il ne sert à rien ce mot. Mais si vous voulez exprimer le désespoir, là vous avez de la place.
Après, ça s'est transformé en une relation amoureuse. Non, c'est le silence qui me revient quand je pense à Lionel. C'est un homme silencieux. Il ne parlait pas beaucoup. Et ses mains, il avait des mains très fines et très sensuelles. Quand ses mains touchaient la guitare ou quand elles se posaient sur les poignets de la moto, c'était très joli et très sensuel. Il n'était pas du tout lourd, une personne très légère qui laissait être les choses de la vie. On se sentait plutôt libre avec lui. Alors, il fallait l'autre côté, lui était libre aussi. Donc tout pouvait se passer, c'est vrai. Hein, ce qu'il dit, tout est possible, tout est permis. C'est, bon, bien sûr, c'était les mots de cette époque-là, mais il le vivait vraiment. Il fallait les deux. Moi, évidemment, j'étais très jeune. Lui, il avait plus de 30 ans. Alors, plus de 30 ans, il me paraissait le bout, quoi. Moi, j'avais 20 ans. Hein, et c'était tout un rythme qui était différent avec lui. C'était comme un univers qui s'ouvrait, quoi. C'était... Alors, on se baladait beaucoup, on marchait beaucoup dans les rues, et puis il pouvait disparaître, partir avec quelqu'un d'autre.
Tu plies comme la branche du saule, et moi je plie contre toi. Tu es tendu comme un arc immense, et moi je me tends contre toi.
J'ai beaucoup pleuré, en fait. J'ai beaucoup pleuré avec lui. Je pleurais parce que il pouvait pas s'en empêcher. S'il y avait une fille, il fallait qu'il la drague. C'était un homme qui aimait les femmes. Moi, c'était un esthète. Et donc, moi, j'étais amoureuse et je pleurais beaucoup.
Nos corps dansent ensemble, bercés par la même musique. Monte de ta chaleur, rencontrant ma chaleur.
Au même moment, il est chanté par Yves Montand, Paulette Renard, Tino Rossi, Pia Colombo le chante, Hugo Frey le chante, et une trentaine de chanteurs français. Et Barbara, il la rencontre à l'Écluse, et Barbara va le chanter très tôt. Ils sont jeunes. Ils sont proches. Il va regarder la télévision chez elle. Il s'endort devant la télévision. Il ne lui écrit pas de chansons. Elle est mécontente. Un jour, elle dit, ça continue comme ça. Je vends la télévision. Et c'est à ce moment-là qu'il va écrire La Longue Dame Brune. En 25 minutes, il a regardé, il a vu devant lui une longue dame brune et il a écrit la chanson. Bon, il n'a pas été privé de télévision par la suite.
Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends, chante encore au clair de la lune.
Jusqu'au jour où Barbara lui téléphone un jour de l'ouest de la France et lui dit, écoute, tu peux me rejoindre à Rouen ou à, je sais pas, quelque part où elle chantait, je voudrais te présenter quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est son amoureux du moment, son fiancé, il s'appelle Serge Reggiani. Serge Reggiani venait de faire un disque avec des chansons de Boris Vian. Et il voulait faire un disque avec des chansons qui lui soient propres. Et elle lui dit, tu veux pas faire des chansons et lui donner des chansons. Alors ensuite, Reggiani vient très souvent chez Joe. C'est comme ça que va naître cette chanson Sarah, la fille qui est dans mon lit, hein,
depuis 20 ans,
depuis longtemps. Mais il lui repasse aussi les chansons qu'il avait données à Maxime et Catherine Forestier. Et Maxime m'a dit une fois, mais on ne pouvait pas faire concurrence. On faisait la manche avec ça, mais du jour où Reggiani les a enregistrés, ben nous on a fait autre chose.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour.
Je ne revendique pas toute la paternité des chansons que j'ai écrites pour Reggiani parce que je lui en laisse une part. C'est aussi quelqu'un de stimulant, c'est un chercheur. Et puis, c'est vrai que c'est peut-être moi qui les écris sur le papier, mais souvent elles proviennent d'une conversation que nous avons eue. Et comme il est aussi inquiet que je suis paresseux, il me relance beaucoup pour savoir où j'en suis ou si c'était comme ça qu'il fallait le dire. Et il me communique cette fièvre et finalement les chansons se forment de cette manière. Mais c'est vrai que nos chansons ne se font pas à partir d'un rendez-vous qu'on prend pour travailler. Je vais passer quelques jours chez lui dans le midi où il vient dîner dans mon île Saint-Louis et puis les choses se font naturellement.
Galerie Georges Moustaki à Paris.
Où est-ce que vous nous emmenez, là, Joël Favreau ?
Je vous précède dans le Saint des Saints, dans le plus grand gisement de guitares du 5e arrondissement parisien, de guitares et d'autres instruments aussi bizarres et encore plus, qu'il a accumulé avec tous ses voyages, tous les cadeaux que lui ont offert les admirateurs. Triste.
Ah oui ! Derrière nous, il y a... Enfin, au moins une douzaine de guitares.
Ah oui, ça, il a de quoi s'amuser. Hein. Il y a des bouzouki, il y a des... Et puis alors, oui, non, il y a quand même un, deux, trois... Une demi-douzaine d'accordéons, pour le moins.
Et des flûtes.
Des flûtes, il y en a un paquet, un petit pandeiro aussi, des percussions. Puis il y a des bâtons de pluie, hein, et là, c'est une épinette, ça tire un bébé clavecin, je pense.
Comment vous êtes rencontré avec Georges Moustaki ?
Je le connaissais déjà depuis un moment, mais ça s'est densifié, surtout quand arrivé 68, et qu'en 68, on a fait partie des mêmes groupes qui allaient sous l'appellation de groupe d'agitation culturelle pour soutenir le moral et pour distraire aussi un peu les ouvriers qui occupaient les usines. Et ça, que ça faisait quand même pas mal de jours que ça durait. Et donc, on a constitué des petites équipes où on allait... comme ça, dans les différentes boîtes. Je me souviens surtout, moi, de chez Citroën, à Aulnay, à l'époque. Et ça m'a beaucoup impressionné parce que moi, j'étais un jeune homme de gauche avec des idées très théoriques. Et j'ai vu ce que c'était que la réalité d'une usine, même qui ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas le bruit et tout. Et là, j'ai pris quand même, je me suis senti petit con là-dedans. Et j'étais bien content de pouvoir essayer de me montrer un peu utile, quoi.
Et Moustaki, Joël Favreau, comment il situait, lui, politiquement ?
Mais alors, lui, il se baladait au milieu de tout ce déferlement de folies diverses, d'un air calme. Évidemment, il chantait ses chansons, celles qui ont paru ensuite dans son premier album, qui a eu énormément de succès, mais « Ma liberté »,« Ma solitude », il les chantait. Et en même temps, peut-être qu'il était plus spectateur qu'agissant. C'était pas du tout un militant, je crois. Puis par la suite, il a quand même montré dans quelques chansons que ça ne le laissait pas indifférent.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres.
Bon, en fait, sa première surprise a peut-être été d'être entendu et un peu écouté quand il allait dans les usines en grève en mai 68 avec Glénie Scudero, Pierre Colombo, Joël Favreau, peut-être même Jacques Higelin et quelques autres. Et là, il s'est dit qu'effectivement, il y avait quelque chose qui pouvait se passer pour l'interprète qu'il était. Et en fait, il est revenu au disque après le succès de Reggiani avec ses chansons. Et Serge Reggiani lui a facilité l'accès à la maison Polydor. Et l'histoire est assez amusante puisque le patron de Polydor prévoient de lui faire enregistrer deux chansons. Ils enregistrent assez vite deux chansons. Et puis il dit, bon, il reste du temps de studio, on va en faire deux autres chansons pour faire aussi un second 45 tours simple. Et sur le second 45 tours simple, il y a le métèque.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Et c'est une explosion, le métèque. Alors, le métèque a été chanté par quelqu'un d'autre, déjà, hein?
Pierre Colombou.
Oui, il a été chanté par une femme. Et elle, elle avait changé le texte avec ta gueule, le métèque, de Juif Ferrand. Et ça n'avait pas fait beaucoup de bruit, hein, cette chanson. Donc, il n'y croyait pas plus que ça. Bon. Donc, Jacques Bedos, directeur artistique chez Polydor, a presque repêché Moustaki parce que plus personne n'en voulait. Dans un studio, les deux me l'ont raconté, hein, Bedos et Moustaki. Bedos se met à trépigner, sans ça, il était de l'autre côté de la vitre, comme ça, je suppose, se met à trépigner, tu tiens ton tube. Moustaki dit bof, on verra, quoi. Et ça fait le succès que tout le monde connaît aujourd'hui. Enfin, ça a été en 68, 69, 70, ça a passé tous les jours à la radio. Donc, 68, ça lance une carrière qui va exploser dans le monde entier.
Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans.
Et ce qui est très marrant, c'est que ces mots, Juif Errant et métèque, on pouvait pas dire dans la chanson française métèque, c'était injurieux, c'était raciste, juif, on avait peur. Si Jo était pas passé par là, jamais Ayam, le groupe marseillais, n'aurait fait un disque qui s'appelle Métèque et Mat. Hein. Bon, il a rendu le mot métèque possible.
Évidemment, le métèque tombe en 1969, 68 est passé par là. Donc il y a beaucoup de gens qui vont faire un drapeau de la chanson Le Métèque, au nom de leurs différences, quelles qu'elles soient leurs différences. Il incarnait une figure de liberté. Il y avait tout. Il y avait la coiffure, il y avait la barbe, il y avait cet air de liberté qui flottait. Et en même moment, parmi ces chansons, il y a des chansons comme « Il y avait un jardin qu'on appelait la terre ». Bon, c'est une chanson sur la préservation de notre bien commun, la terre, qui vient très tôt. Donc il y a cette espèce de conscience. Et en même temps, on sent son engagement à travers les chansons avec Theodorakis, par exemple. Voilà, il est donc une figure un peu écoutée, sans rien imposer. Il n'a pas de leçons à donner en réalité, et il n'en donne pas. Au fond, Moustaki, il est un témoin à travers bon nombre de ses chansons. Il est un témoin de l'époque qu'il traverse. Et cette liberté, bien sûr, on va la retrouver sur scène, puisqu'il ne chante pas selon un conducteur préétabli, avec telle chanson en premier, telle chanson en dernier. Chaque fois, comme il travaille avec des musiciens qui sont très habitués à jouer avec lui, c'est une promenade qu'il fait au cours de son spectacle, comme ça, très librement, selon un peu son humeur, selon les réactions du public aussi. Et là, on est encore sous le signe de la liberté.
Je voudrais vous présenter les musiciens qui m'accompagnent. À la contrebasse, Michel Gaudry. À la guitare et au chœur, Joël Favreau. Jean-Charles Capon au violoncelle. Enfin, celui que vous verrez quand il va se lever, c'est Philippe Combel qui joue des tablas. La chanson s'appelle « Le temps de vivre ».
Musicalement aussi, et je me souviens que son premier groupe en 69, quand il a fait Bobino, c'était un groupe bizarre, il n'y avait pas de batteur, il y avait un percussionniste qui jouait des tablas, quoi, ces percussions indiennes, c'est la première fois qu'on en entendait, et puis le violoncelle, Brassens c'était une contrebasse, c'est plus bas, hein. Là le violoncelle c'était un instrument qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans les chansons.
prendront le temps de vivre.
Benoît Charvet à la contrebasse et à la flûte. La flûte, c'était il avait d'abord besoin d'aigus, ça c'est vrai. Et puis, à côté pâtre, côté berger. La flûte, c'est un des premiers instruments dont l'homme se soit servi pour faire de la musique. Je pense qu'il avait ça dans la tête, quoi. C'était profondément du sud. Et une voix de fille. Ça a été ma sœur pendant quelques mois, et puis après, ça a été Martha.
Parce que lui, il voulait qu'une voix de femme comme ça éthérée dans le cosmos. Mais on pouvait moduler très peu, mais changer, improviser un peu. En le réécoutant, je trouve que c'était pas mal.
La certitude que tout peut changer un jour.
Et je trouve que il y avait de la liberté quand même. On improvisait pas mal, il y avait des intros interminables. Et c'était assez nouveau pour cette époque-là par rapport à ce qui se faisait.
On succédait quand même à l'arrivée tonitruante des yéyés, qui eux amenaient des sons puissants. Et le public de Moustaki, déjà qui était acquis par ce qu'il racontait, les techs évidemment, découvrait avec ravissement les sons authentiques des instruments. Alors, il n'y a jamais eu d'arrangement écrit, par exemple. Jamais eu d'orchestration. C'était des ajouts de personnalités diverses qui amenaient chacun leur couleur.
Il y avait très peu de répétitions?
Très peu. Ça se faisait principalement sur scène, je crois. Oui.
Je déclare l'état de bonheur permanent et le droit de chacun à tous les privilèges. Je dis que la souffrance est chose sacrilège quand il y a pour tous des roses et du pain blanc. Je conteste la légitimité des guerres, la justice qui tue et la mort qui punit. Les consciences qui dorment au fond de leur lit, la civilisation au bras des mercenaires. Je regarde mourir ce siècle vieillissant. Un monde différent renaîtra de ses cendres, mais il ne suffit plus simplement de l'attendre. Je l'ai trop attendu, je le veux à présent. Que ma femme soit belle à chaque heure du jour, sans avoir à se dissimuler sous le phare, et qu'il ne soit plus dit de remettre à plus tard l'envie que j'ai d'elle de lui faire l'amour.
Georges Moustaki, c'est l'homme des rencontres. Il va rencontrer une foule de musiciens. Il va y avoir Manos Hadjidakis, le grec, et puis après Théodorakis, bien sûr, à sa libération des prisons des colonies grecques, et puis viendront ses rencontres du Brésil. Moustaki, c'est quand même quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a une curiosité, au fond, qui touche à peu près à tous les pays, qui va croiser l'histoire de la révolution des œillets au Portugal avec une très belle chanson qui s'appelle Portugal. C'est quelqu'un, Moustaki, qui va chanter Hiroshima, et il écrira une chanson à Nagasaki un peu plus tard. Georges Moustaki, c'est aussi quelqu'un qui chante une Espagne sans Franco dans une chanson qui s'intitule Flamenco. Donc il y a cette espèce de dimension et d'ouverture au monde. Cette ouverture au monde, c'est aussi une ouverture aux musiques du monde. Et en fait, il est un petit peu un caméléon, parce que chaque fois qu'il se frotte à une musique d'ailleurs, il en reste des traces dans ce qu'il compose.
Caméléon, pas au sens qui serait péjoratif de celui qui s'adapte aux autres, mais au sens de celui qui capte ce qui l'environne, qui sait capter une atmosphère, une musique, donc. Mais pas seulement ça, une façon de vivre. Il prend un instrument qu'il connaît pas, il commence à demander comment ça marche, il en joue, etc. Il entend une langue qu'il connaît pas, il essaye de la pénétrer. À la fin de sa vie, il commençait à apprendre le japonais.
Et musicalement, ça se traduisait comment, Louis-Jean Calvet?
Il y a de l'oriental, du Brésil et de la chanson française. Et chaque fois, il excellait dans ces trois genres, même si le troisième, chanson française, dominait dans son œuvre. Lorsqu'il chantait des chansons brésiliennes, les Brésiliens le trouvaient très bien. Lorsqu'il chantait une chanson traduite du grec, les Grecs trouvaient ça merveilleux. Donc, à la fois caméléon et kaléidoscope, le caméléon, c'est « je prends racine là où je suis », le kaléidoscope, c'est « je témoigne de différents endroits dans lesquels je suis allé et dont je ramène des rythmes, des colorations musicales, parfois des odeurs ou de la cuisine, d'ailleurs ». Alors, le Brésil, il connaissait la musique brésilienne parce que Pierre Barou, qui était un des grands spécialistes, a fait écouter à Moustaki de la musique brésilienne. Et puis un jour, il a rencontré en France une chanteuse très connue au Brésil qui s'appelait Nara Leão, qui avait traduit Joseph de Moustaki. Bon, elle le chantait et des amis portugais ou brésiliens m'ont dit qu'ils avaient entendu dans les églises chanter en brésilien, en portugais du Brésil, la chanson Joseph. Et donc, elle l'a invité à venir chanter à Rio. Elle lui a fait rencontrer tous les grands chanteurs de l'époque. Vinicius de Moraes, etc. Bon, sauf un, il en manquait un, c'était Jobim. Mais là, ça a été pour lui une découverte extraordinaire. Il s'est mis à apprendre la guitare brésilienne. Il me disait, mais tu te rends compte, dans la rue, n'importe quel gamin prend une guitare, il te sort des accords dissonants extraordinaires. Et là aussi, il a retravaillé la guitare pour apprendre une nouvelle façon de jouer la guitare.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o nó da madeira.
Canga, candeia,
é o mate da pereira.
É madeira de vento,
da rimanceira.
Alors, il avait déjà traduit quelques chansons du brésilien. Et Jobim voulait absolument qu'il traduise une chanson. Alors, ils se sont rencontrés à New York, et non pas à Rio. Et Jobim lui dit, mais pourquoi tu fais pas une traduction des Eaux de Mars? Et Jo lui dit, écoute, je veux bien, mais j'y comprends rien. Il comprenait pas le texte. Il dit, voilà, on me l'a traduite même, je ne comprends pas de quoi tu parles. Et Jobim a commencé à lui dire, mais tu sais, bon, en mars, c'est l'automne au Brésil, donc voilà, j'ai une maison à la campagne, je me balade, bon. Et Jo a commencé à voir l'atmosphère de cette chanson, les pluies, les eaux. Et surtout, il a capté quelque chose qui est très brésilien, une façon de faire des phrases en ajoutant sans arrêt les participes présents. Par exemple, le parleur parlant, le chanteur chantant, a chuva chuvando, la pluie pleuvant, si vous voulez, choses comme ça. Et il y en a plein dans le texte de Jobim.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire.
Et dans le texte de Moustaki, c'est devenu un chemin qui chemine, c'est un conte à bon compte, des choses comme ça, qui ne sont pas des participes présents comme en portugais, mais qui stylistiquement reprennent la stylistique de Jobim.
Au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars.
Donc ce qui est marrant, c'est que c'est une chanson, une traduction de poète. C'est pas une traduction de traducteur, je veux dire. Et les Brésiliens vous disent, seul Moustaki a su mettre en français notre musique.
C'est aussi un formidable ambassadeur de la langue française.
Et un ambassadeur plurilingue, c'est pas toujours le cas chez nos ambassadeurs. Ouais. Il est devenu français en 1985. C'était déjà une énorme vedette. Il s'appelait Youssef Moustaki et il devait aller pointer à la préfecture de police pour faire tamponner ses papiers tous les 6 mois, je sais pas tous les combien. Et il était dans le monde entier connu, c'était l'ambassadeur de la langue française, enfin un des ambassadeurs. Mais enfin parmi les plus grands, parce que Brassens avait peur de l'avion. Non, Brassens, lui, il faisait que l'Europe, il est allé très rarement au Québec, il aimait pas ça. Il y avait guère que Jo et Aznavour qui chantaient dans le monde entier. Qui avait vraiment un public, je veux dire. Jo, il y avait toujours 2000 personnes prêt à venir payer un billet pour l'écouter à Santiago du Chili, à Tokyo, n'importe où, à Moscou. Enfin, c'était extraordinaire.
Un jour, on s'est amusé à compter dans combien de pays il avait pu chanter. Et je pense qu'il a chanté dans 70, 80 pays peut-être. Et chaque fois, il était accueilli avec les mêmes égards. Et puis en France, on dit déjà, Moustaki, il ne fait plus rien, voilà.
Il était toujours curieux. Voyager. Il a voyagé tout le temps. Peut-être que derrière, il y a une angoisse qui transparaît quand même dans certaines chansons. Il y a tout un côté d'ombre, de tristesse, la conscience du temps qui passe, par exemple. Ça aussi, c'est un thème qui revient beaucoup. Mais c'est comme un fond. Mais devant, il y a des motifs avec des vives couleurs.
Et par exemple, quand il écrivait les chansons, il gardait tous les débuts, tous les vers qui lui paraissaient intéressants. Mais c'était quelque chose qui était comme ça, en réserve, dans un tiroir. Et en fait, il appelait ses bribes ses belles au bois dormant. Et quand venait le moment d'un disque, il disait qu'il réveillait les belles au bois dormant.
Il avait une sorte de nonchalance, de tranquillité, qui tranchait aussi. Vous savez qu'à l'époque, on appelait Gilbert Bécaud Monsieur 100 000 volts. Et Eddie Mitchell, très méchamment, mais ça faisait beaucoup rire Joe, l'avait appelé Monsieur 0 volt. Ou Monsieur un volt. Bon, mais c'était ça aussi, ça tranchait. Alors, et en même temps, c'est mis en place un mythe, le mythe du fainéant. Alors, fainéant, étymologiquement, ça veut dire celui qui ne fait rien, hein, néant, celui qui fout rien, quoi, le fainéant. Alors que c'était un travailleur acharné. Mais il a alimenté ce mythe. J'ai toujours vu Joe travailler, qu'il s'agisse du ping-pong, des échecs ou du go. On a fait des dizaines, des centaines de parties d'échecs, il lisait tous les bouquins d'échecs, qu'il s'agisse d'apprendre une langue, ou de composer, ou d'apprendre le piano ou l'accordéon. Enfin bon, c'était un travailleur acharné. La nuit, il se réveillait, il avait toujours un carnet à côté de lui, il écrivait des choses auxquelles il venait de penser en dormant ou en rêvant, quoi. Bon. Donc, un gros bosseur.
Et en même temps, il cultivait cette image de paresseux.
Et cultivait cette image de lézard grec, hein, qui dormait au soleil. Mais en même temps, dans la vie quotidienne, quand on discutait, par exemple, il prenait toujours le temps de réfléchir. Il avait une intelligence très rapide, hein, mais quand même de sous-peser ce que vous disiez. On avait l'impression qu'il cherchait à opposer un argument, mais à pas vous vexer en même temps, à pas vous blesser. Enfin, c'est un homme d'une grande urbanité et qui regardait passer le monde comme ça, avec un petit recul parfois ironique, parfois tendre, quoi. Mais ça lui donnait cet air de... Ouais, de lézard.
Le regard lointain, le sourire éteint, l'inconsolable se tait. Son visage est lisse, pas de cicatrice, pas même un grain de beauté. Frêle est sa poitrine, il a les mains fines et le dos un peu voûté, comme si l'orage avait dans sa rage tenté de le dévaster, comme si l'orage avait dans sa rage tenté de le dévaster.
Le 23 mai 2013, Georges Moustaki, le chat d'Alexandrie, s'est éteint à l'âge de 79 ans à Nice, des suites d'une maladie pulmonaire. Il repose au cimetière du Père Lachaise, non loin de celle qui lui a ouvert les bras et la voix, Édith Piaf. Merci à Louis-Jean Calvet, Marcel René Moustaki, Marc Legras, Maxime et Catherine Le Forestier, Joël Favreau, Sophie Delassin, Pia Moustaki, Areski Belkacem et Valérie Lefebvre. Prise de son, Laurent Macchietti et Yves Lehors. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Christine Bernard. Georges Moustaki, un air de liberté. Un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Julie Béressy.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de franceculture.fr. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour par Pascaline Bonnet. Dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.